Chapitre 16. Le soleil traverse la vitre sale du bureau de la NOA et fait scintiller les particules de poussière en suspension. Yuna est assis devant son ordinateur dans la salle d'enquête. Derrière la porte close, on entend le vrombissement monotone de l'imprimante qui crache des feuilles à un rythme effréné. L'autopsie n'a pas commencé. Mais les enquêteurs sont déjà convaincus que le jeune dealer retrouvé ce matin sur l'aire de jeu du club de tennis d'Edsviken a été tué parce qu'il avait vu quelque chose la nuit du meurtre de Nils Nordlund. La direction a décidé d'étouffer l'affaire pour ne pas effrayer d'éventuels témoins. Une équipe de la NOA recherche des similitudes entre les deux premiers meurtres et d'anciennes affaires en Suède et dans les pays voisins, sans résultat pour le moment. Yuna a tenté à plusieurs reprises de contacter la petite amie de Hugo, Olga Wojciech. Elle est désormais convoquée officiellement pour un interrogatoire. L'enquête devient de plus en plus complexe. Chacun des membres de l'équipe alimente un tableau Excel commun qui consigne les faits dans l'ordre chronologique. Mais les procédures d'investigation classiques ne donnent rien. Il n'y a pas de vidéosurveillance, pas de voisins à interroger, et les entretiens avec les proches et les amis n'ont livré aucune information utile. Les experts informatiques ont décortiqué les activités numériques des victimes sans trouver le moindre élément pouvant constituer un mobile. Pas de chantage, ni de dette, ni de trafic de drogue. Aucun signe de dépendance au jeu ou de lien avec le milieu criminel. On frappe à la porte. Noah Hellman entre dans la salle d'enquête accompagnée de son assistante. Il s'arrête devant Yuna, se passe la main dans les cheveux et fronce les sourcils. J'aurais eu besoin de ton soutien pendant la conférence de presse, dit-il. Ce n'est pas dans mes fonctions de te soutenir lors d'une conférence de presse, rétorque Yuna. Tu es vraiment têtu, sourit Noah. Donne une chance à Saga. On a besoin de ses compétences. On a déjà eu cette discussion. Yuna, tente l'assistante d'un ton apaisant. Je te laisse gagner au billard, enchaîne Yuna. Oh. « Tu te crois si supérieur ?» réplique Noah. « On peut inverser les rôles. Si je gagne, tu la laisses entrer dans l'équipe. »« Bien tenté, mais elle n'est pas prête pour... »« Si !» l'interrompt Yuna en se levant de sa chaise. Il quitte le bureau et descend par l'ascenseur jusqu'au parking souterrain situé sous le parc Kronoberg. Il longe les couloirs, s'installe dans sa voiture, emprunte la longue rampe et sort dans l'agitation de la Friedemsplan. Le ciel est gris et l'air mordant. Les passants marchent, la tête rentrée dans les épaules, le regard tourné vers le sol. Des torches brûlent devant l'étal d'un vendeur de sapins. Un homme traîne un sac poubelle noir, depuis un snack, et cède de son genou pour le hisser dans un grand conteneur. Dans moins de 20 minutes, Yuna doit mener le deuxième interrogatoire de Hugo Sand. Il est leur seul témoin. La seule passerelle qui mène au meurtre de ces deux hommes. Deux victimes choisies et tuées avec une violence extrême. Le jeune homme affirme ne se souvenir de rien. Mais selon Agnetta, il lui arrive parfois d'être en contact avec ses souvenirs lorsqu'il se réveille de ses crises de somnambulisme. Les réminiscences de cette soirée doivent être là, quelque part. Sur les Singeleden, la circulation ralentit et avance au pas. Un hélicoptère jaune des secours plane au-dessus des toits et des cimes de Gröndal. Si sa méthode habituelle d'écoute et d'attention ne fonctionne pas aujourd'hui, et si Hugo ne cède pas à l'envie de parler, Yuna a un autre plan. L'adolescent semble entretenir une relation compliquée avec son père, comme s'il testait ses limites pour affirmer son indépendance ou peut-être pour pousser son père à lui prouver son amour. La circulation reprend après les barrages qui entourent un grand trou dans l'asphalte. Hugo doit être soulagé depuis que le procureur a levé les accusations et l'a libéré. Il faut renforcer ce sentiment chez l'adolescent, lui faire comprendre qu'il n'a plus besoin de s'accrocher à chaque détail de sa version initiale. Yuna roule lentement sur la route qui traverse le quartier de Mellerjöden. À droite, une enfilade de maisons luxueuses borde le lac. À gauche, un muret de soutènement retient des jardins escarpés surplombant la route. Yuna ralentit, passe un portail en fer forgé et se gare sur un petit parking. La boîte aux lettres déborde de prospectus détrompés. Il sort de la voiture tout en pensant à la deuxième partie de sa stratégie. Pousser Hugo à défier les tentatives de Bernard pour le faire taire. Yona doit semer l'inquiétude chez Bernard, le laisser penser que son fils n'est pas encore lavé de tout soupçon et lui faire craindre que Hugo en dise trop. S'il essaie de le museler, cela aura l'effet inverse. Personne n'aime se sentir manipulé. Yona emprunte l'allée qui mène à une grande villa jaune de 3 étages avec des fenêtres à croisillons et un toit noir en pente. Derrière la maison s'étend une grande pelouse qui descend vers un chalet d'été au bord de l'eau. Yona avance jusqu'à la porte, sort son téléphone de sa poche intérieure pour lancer l'enregistrement et le remet dans sa veste. Il appuie sur la sonnette. Un carillon numérique retentit, suivi par le martèlement des pas sur un sol carrelé. La porte s'ouvre sur Bernard Sand. Ses cheveux grisonnants sont en bataille et des cernes marquent son regard. Mais il est rasé de près et porte un costume en velours côtelé marron avec des coudières en cuir. Yona se présente en lui serrant la main. « On s'est vu lors de l'interrogatoire. « Bien sûr, entrez. Vous pouvez accrocher votre manteau ici, » répond Bernard. « Je suis désolé si j'ai paru sur mes gardes l'autre fois. C'était difficile, forcément. » Pour mon fils, mais aussi pour moi. Vous avez des enfants ?
Une fille adulte, répond Yona en suspendant son manteau.
Alors vous savez, vous savez. Entrez, dit Bernard en le guidant dans le couloir. Je me disais qu'on pouvait s'installer dans la cuisine, sauf si vous préférez que je ne sois pas là.
Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, ce genre de choses. C'est mieux si vous ou Agnetta êtes présents, dit Yona.
Agnetta est à la rédaction toute la journée, répond Bernard. Il s'arrête devant la porte fermée de la cuisine, se tourne vers Yona et tente un sourire détendu. Mais il n'est plus suspecté maintenant, si ?
C'est horrible à dire, mais quand l'avocat m'a annoncé qu'il y avait une deuxième victime, c'est la première fois que je me sentais soulagé suite à un meurtre.
L'enquête n'est pas terminée. Elle est simplement entrée dans une nouvelle phase. Le procureur ne considère plus Hugo comme suspect, explique Yona. Et vous ?
Tant que ce n'est pas impossible, c'est encore possible.
Comme tuer quelqu'un à Sollentuna alors qu'on est en détention à Stockholm ?
Vous êtes écrivain, non ? Réplique Yona.
Il pourrait avoir un complice, si c'est ce que vous voulez dire.
Je dis juste que ce n'est pas impossible. Même si pour l'instant, je considère Hugo comme un témoin.
Donc vous pensez qu'on n'a plus besoin d'avocat ?
Je ne pense pas. Mais si ça vous rassure d'en avoir un, Hugo est mineur et l'interrogatoire a été convenu à l'avance.
Bernard toque doucement et ouvre la porte de la cuisine. Hugo est assis à la table, devant un vieux manuel de biologie et une canette de Red Bull. Il porte des lunettes. Ses cheveux sont relevés en chignon. Il est pâle et beau, d'une manière un peu cabossée. Ses bras sont tatoués. Une entaille sombre parcourt son front. Un hématome virant au gris court sur sa joue et 3 de ses doigts sont couverts de pansements.
« Bonjour, » dit Yona.
« Salut. »
« On s'est rencontrés en détention. » Je m'appelle Yona Lina, je suis inspecteur à la NOA, l'Unité Nationale des Opérations Spéciales, dit-il en lui serrant la main. J'ai repris l'enquête, mais je voudrais commencer par m'excuser pour le temps que tu as passé en détention. Le procureur a fait une erreur. Je comprends que ça a été difficile pour toi.
Je suis chez moi maintenant, murmure Hugo en posant son surligneur jaune sur la table. Mais pas complètement mis hors de cause, précise rapidement Bernard.
Aucun scénario n'est écarté tant que je n'ai pas résolu cette affaire, explique Yona.
Vous semblez sûr de réussir, dit Hugo en le regardant avec une lueur d'intérêt dans les yeux.
Oui, confirme Yona en s'installant face à lui.